Que le message qui vient de toi passe dans nos cœurs. Que nous soyons tendres et attentifs. Au nom de Christ. Amen. Amen. Ça marche? Ok. Je vous invite, sans plus tarder, à prendre vos Bibles et à lire avec moi Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je tenais à ce que le message soit enregistré parce que j'ai déjà donné quelques enseignements par la grâce de Dieu sur la prière. Il se trouve que ce message-là n'a pas été enregistré. Ça fait un moment que je l'ai prêché. En tout cas, j'ai souvenir, j'ai une note ici qui me dit que je l'ai prêché en 1985 au Québec. Donc je ne sais pas si vous n'étiez pas là, certainement, mais je crois que je l'ai reprêché après. Vous n'étiez pas né, c'est ça peut-être, certains? Bon, ok. Alors si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, le Seigneur me donne un fardeau, et j'espère que ce fardeau va être le vôtre. Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Si nous relisons le verset 18, il est écrit « Faites en tout temps », soulignez l'adverbe « tout », par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Au travers déjà du commandement ici, les deux commandements que l'on trouve ici au verset 18, « Faites en tout temps », c'est un ordre, « Veillez », c'est donc qu'il y a un appel pressant à la prière persévérante et à la prière continue et à la prière éveillée. « Veillez à cela avec une entière persévérance ». En fait, ce n'est pas nouveau dans les Écritures que le Saint-Esprit nous demande à nous, les croyants, de prier en tout temps. J'aimerais rapidement que nous puissions voir trois textes. Le premier se situe en Luc, chapitre 21 et verset 36. Luc, chapitre 21 et verset 36. 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, c'est Jésus qui nous exhorte à la vigilance. Ce sont donc les paroles mêmes de Jésus, en quelque sorte que Paul reprend, en Épître aux Éphésiens, « Faites en tout temps par l'Esprit ». Et puis, acte 2, verset 42, si vous tournez un peu plus loin, acte 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Il y avait donc, dès le début de l'Église, l'Église primitive, une activité intense dans la communauté des croyants de la prière. La prière n'était pas facultative. Et puis dans le psaume 55, psaume 55 et versets 17 à 19, il est écrit, c'est un psaume de David, « Et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera ou me délivrera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entend ma voix. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. » Et on sait que le sujet n'est pas qu'en prier, parce qu'on pourrait regarder toute une série là-dessus. On sait que Daniel, par exemple, avait l'habitude de prier trois fois par jour, le matin, le midi et le soir, en direction de Jérusalem. Et on sait comment Dieu a utilisé cet homme, n'est-ce pas, et ses prières dans un temps particulier de la vie d'Israël en déportation. En fait, la question que le Seigneur nous laisse ce matin est celle-ci. Est-ce que la prière est importante pour vous? Je répète, est-ce que la prière est importante pour vous? Est-ce que vous croyez qu'il est important de prier? Est-ce qu'il est important de prier? Et j'aimerais vous donner, et je ne sais pas si on aura le temps de finir, d'habitude on essaie d'avoir une prédication en trois points, mais voilà, ce matin nous allons, Dieu voulant, on ne sait pas si on va terminer, regarder l'importance de la prière. Il y a 11 raisons que j'ai trouvées pour lesquelles le Seigneur nous exhorte à prier. La première raison, c'est parce que le diable existe. Le diable est rusé, puissant. Il ne s'accorde aucun repos pour faire chuter l'enfant de Dieu. D'ailleurs, quand nous avons lu en Éphésiens chapitre 6 et verset 18 le texte de l'apôtre Paul, n'est-ce pas ? On sait bien que c'est dans le contexte du combat spirituel, et on voit dans les premiers versets de ce sujet du combat spirituel, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et Paul nous invite à revêtir toutes les armes de Dieu, à prendre le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et on oublie de parler de ce qui suit qui est la prière. Face au diable, nous avons besoin de prier. Récemment, j'ai su qu'il y a une jeune fille envoyée du Canada en Espagne comme missionnaire parmi les musulmans qui est tombée dans le péché. Une femme qualifiée, entourée de missionnaires qui étaient là pour l'encadrer durant la semaine, prier avec, faire des études bibliques, etc. Et elle est tombée et elle s'est accotée avec un musulman, une chrétienne engagée, qui a donné son témoignage dans X églises au Québec, qui a proclamé la mission, et elle est tombée. Alors on peut dire que peut-être cette sœur avait une faille dans sa vie par laquelle une brèche, le diable, a pénétré. Mais il n'empêche pas moins que je suis convaincu que le diable a agi dans sa vie pour la faire chuter, et faire chuter son témoignage. Nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu et de croire à la toute-puissance de la prière. Je me souviens un jour, un diacre dans mon ministère qui est venu me voir et qui m'a dit « Michel, je suis opprimé en ce moment. » Et nous avons prié une prière brève et instantanément le frère a témoigné qu'il se sentait libéré de l'oppression. Je me souviens d'une dame qui s'est convertie dans notre ministère au Québec, et une belle conversion, une dame zélée encore dans l'église toujours, et dont la fille était tourmentée, et j'ai su qu'elle faisait des angoisses et des cauchemars. Elle avait 12-14 ans, je ne me souviens plus exactement, et donc elle m'a demandé d'aller chez elle et de prier pour sa fille, et nous avons prié dans le salon. Il y avait donc cette sœur en Christ nouvellement convertie et sa fille là. Alors c'est une jeune fille, oui, il y a des choses terribles qu'on entend parfois, qui avait été abusée de son père et qui était tourmentée dans la nuit et des angoisses. Et l'ennemi, par cette blessure de sa vie, avait infecté cette blessure, parce que l'ennemi, une de ses ruses, c'est d'infecter les blessures, n'est-ce pas, pour essayer de détruire encore plus. Eh bien, nous avons fait une simple prière de délivrance. Elle a accepté le Seigneur et du jour au lendemain, elle a cessé d'avoir des cauchemars. Vous croyez qu'il est important de prier? Nous ne prions pas parce que nous ne croyons pas assez. C'est terrible de penser que nous perdons notre temps par beaucoup d'autres choses alors que nous devrions être à genoux. On dit que l'apôtre Jean se promenait dans les églises à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Et qu'il priait constamment en demandant aux gens de s'aimer les uns les autres. Et on dit que Jacques avait des genoux durs comme des cailloux, tellement il avait passé des heures dans la prière. Il y a un dénominateur commun chez tous les hommes et les femmes de Dieu. Des croyants qui ont vu des choses s'accomplir, c'est qu'ils étaient souvent à genoux. C'est quand on est humble à genoux devant Dieu, qu'on est grandi devant le Seigneur, mais souvent caché devant Dieu, parce que la gloire lui appartient. Est-ce que vous croyez qu'il est important de prier contre les ruses du diable? Je me souviens avoir entendu Pierre Van Worden dans une conférence à Bertenberg en Suisse lors d'une convention qui mentionnait qu'il était sorti de l'école biblique et sur une montagne avec un précipice, n'est-ce pas, c'est au bord d'une falaise, et tout d'un coup il s'est senti poussé littéralement par le diable à se jeter, à mettre fin à ses jours. Est-ce que ça arrive qu'un chrétien, un croyant puisse avoir ses traits enflammés du malin qui voudrait le pousser à se détruire? Oui, ça peut arriver. Et il s'est souvenu que lorsque les bombardements allemands avaient lieu en Hollande, n'est-ce pas, sa maman et ses enfants se cachaient dans la cave et priaient au nom du sang de Jésus que Dieu les protège. Alors il s'est souvenu de cela, la puissance de la prière. Il a prié au nom du sang de Jésus que Dieu le protège. Et puis Dieu l'a protégé, mais il sentait comme une force malgré lui qui le poussait à mettre fin à ses jours. Sachant que c'est un homme ensuite, parlant cette langue, qui a visité le monde et qui a eu un ministère en tant qu'orateur et musicien extraordinaire. Mais Satan voulait le détruire, mais Dieu l'a protégé. Et il remontait le sentier vers l'école biblique, terrifié, n'est-ce pas, apeuré, tout tremblant. Et là, il rencontre un frère, un étudiant de l'école biblique, à la limite même qu'on méprisait un petit peu, parce qu'on trouvait qu'il était différent des autres. Il n'était pas souvent là avec les autres, etc. Et alors Pierre Van Den Vonen, le premier croyant qu'il a eu, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Et cet étudiant l'a regardé, oui je sais. Comment ça tu sais? Oui. J'étais dans ma chambre en train de prier, comme d'habitude. Et Dieu m'a dit, prie pour Pierre Van Vorden, il est attaqué par le diable. Et j'ai prié pour toi. Il a compris, Pierre Van Vorden, ce jour-là, la leçon. Cet homme qui était peut-être pas mis en avant, mais c'était un homme de prière, qui fermait la porte de sa chambre et qui allait prier. Et Pierre Van Vorden a été très reconnaissant qu'il y ait un frère qui le soutienne, parce que vous savez, les traits enflammés du malin peuvent être terribles, n'est-ce pas? Terribles. Regardez cette jeune fille qui est tombée dans le péché. Et puis il y a une femme, un jour, dans notre ministère au Québec, qui a frappé à la porte et qui a demandé à être sauvée, comme ça. À la porte. On a eu le temps à peine, on n'a même pas eu le temps d'ouvrir. Elle dit, que faut-il faire pour être sauvée? On lui racontait cette histoire, mais et finalement, c'est une jeune femme qui, abandonnée de ses parents à l'âge de 14 ans, s'était lancée dans la prostitution et dans l'occultisme. Alors après s'être convertie, par la grâce de Dieu, on a fait une chaîne de prières à l'église. Ce jour-là, Louise a téléphoné, on a vu que c'est une dame qui avait une oppression, mais elle a été délivrée, elle s'est convertie, mais chez elle, elle avait toutes sortes de choses qui bougeaient dans sa maison, puis elle sentit une oppression, et je me souviens avoir fait une visite avec un diacre chez cette sœur-là, incapable de prier, incapable de lire la Bible. Je lui dis, oh là là, Michel, ta vie spirituelle commence à avoir vraiment des problèmes. Et puis jusqu'à ce qu'elle nous dise, mais moi, de chez moi, j'ai toutes sortes de choses qui arrivent. Alors Louise est allée purifier son garde-robe, parce qu'il y avait toutes sortes de choses horribles. Et puis nous avons prié avec le diacre dans cette seconde visite que Dieu purifie cet appartement. Comme ça, sans aucune émotion particulière. Et cette jeune femme nous a témoigné par la suite, à cause de cette prière, qu'elle n'avait plus eu aucune manifestation dans son appartement. Je souligne cela comme des anecdotes, vous comprenez, pour montrer et que vous ne doutiez pas de l'importance de prier. Est-ce que vous croyez qu'il est important de prier? Oui, il est important de prier. Même Jésus, face à l'agonie de la croix, a prié Dieu le Père. Et il s'est écrié finalement, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a passé du temps dans la prière, on le verra dans un instant. Mais n'ayons aucun doute, si vous ne priez pas, alors vous êtes particulièrement vulnérable aux attaques de Satan. Et si vous cessez de prier parce que vous êtes endormi, alors Satan peut vous endormir tellement que vous ne voyez même plus la nécessité de prier. Et Satan vous laisse tranquille parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne. Spurgeon disait, quand nous sommes poussés par le Saint-Esprit de prier, c'est péché de ne pas prier. Quand il dit, quand nous n'avons plus envie de prier, ce serait péché de rester dans une telle condition. En fait, la Bible dit « Priez en tout temps par l'Esprit ». Donc c'est une prière persévérante, une prière continuelle, une prière spirituelle et une prière éveillée, parce qu'il est écrit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc l'apôtre Paul avait ce fardeau de partager cette grande vérité pour les croyants, qu'il est important de prier. La prière est-elle importante dans votre vie? Quelle est la place que vous donnez dans la semaine, dans la journée, à Dieu pour vous adresser à lui, pour intercéder, l'adorer, lui rendre grâce? La deuxième raison pour laquelle nous devrions prier avec constance, persévérance et avec éveil, et d'une façon victorieuse, parce que le Saint-Esprit est victorieux en nous, n'est-ce pas, lorsqu'il nous pousse à prier, c'est que c'est la prière est le moyen que Dieu nous a préparé pour obtenir toutes choses. La Bible dit, priez en tout temps pour l'Esprit, toutes sortes de prières, avec des supplications, des actions de grâce, c'est un autre passage, mais en toutes choses, nous pouvons demander à Dieu d'intervenir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en fait, nous devons prier parce que la cause secrète de toute lacune dans notre expérience, dans notre vie, dans notre travail, dans nos foyers, se trouve dans la négligence de la prière. Il n'y a pas parfois de victoire par rapport à certaines situations parce qu'il y a un manque de prière. Mais non, prier, ce n'est pas balbutier quelques mots du bout des lèvres, quoique Dieu entende toutes sortes de prières. Mais c'est prendre la prière à cœur, parce que c'est prendre les choses de Dieu à cœur, c'est parce que c'est mettre Dieu au centre de notre vie. Nous avons terminé dimanche dernier le message en montrant qu'en fait Dieu devrait être au centre de tous les domaines de notre vie. C'est la priorité des priorités. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela se démontre dans la prière. Parce que nous sommes humains, nous sommes faibles, nous sommes faillibles et nous sommes tentés, nous pouvons chuter et nous pouvons nous détourner de Dieu. La Bible dit en Jacques chapitre 4 verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Le chrétien ne reçoit pas souvent parce qu'il n'a pas tout simplement demandé. Reconnaissons que lorsque nous commençons la journée dans la prière, la journée est différente que lorsque nous partons rapidement de chez nous sans lire la Bible, sans prier, sans nous adresser à Dieu. Il y a une différence énorme de commencer la journée dans la prière avec notre Dieu, parce que c'est là commencer avec Dieu. Est-ce que nous pouvons vivre sans Dieu, les enfants de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous permettre le luxe de vivre la journée sans Dieu, comme s'il n'existait pas? Bien sûr, on peut être occupé, mais remettons la journée entre les mains de Dieu dès le matin, de bonne heure, afin de lui confier notre journée, pour qu'il nous garde, qu'il nous protège, etc. Le secret du succès du progrès spirituel, c'est la prière. Le secret de la vie abondante, c'est la prière. Le secret de la vie sainte et pure, c'est la prière. Le secret pour connaître la volonté de Dieu, c'est la prière. Il y a des situations parfois que nous vivons et qui traînent parce que nous n'avons pas prié jusqu'au point de connaître profondément la pensée de Dieu. Et nous devons parfois, lorsque nous sommes au bout du rouleau, et parfois Dieu est obligé de nous mettre dans un impasse tel qu'on est obligé de se mettre à genoux et de commencer à supplier Dieu de nous montrer sa pensée, sa volonté et ses commandements, ce qu'il désire. La prière est la solution à tous nos problèmes. J'ai parlé hier au téléphone avec un cher frère du Québec, s'appelle Denis Fontaine, et il y a à peu près plusieurs années, je ne me souviens plus exactement le nombre d'années, alors peu importe, je l'ai visité, il est responsable de la mission dans une église quand même importante à Québec, et c'est un frère qui est ingénieur agronome, qui a travaillé en Afrique, etc. Il est rentré au Québec, et là il n'a pas pu retrouver du travail, sa femme est tombée gravement malade, suite à sa maladie elle a fait une dépression, des insomnies comme c'est pas possible. Et quand je suis allé les voir, alors qu'il avait à cœur d'aider les autres, ça m'avait frappé, matériellement, c'était une catastrophe dans leur vie. Physiquement, une catastrophe. Les enfants aussi avaient des problèmes, et on a prié. Et c'est un frère que dans mon cœur, le Seigneur a placé sur mon cœur, et de temps en temps, on échange des emails. Hier, il était absent. C'était vendredi que je l'ai appelé. Alors, il était absent, et j'ai eu sa femme au téléphone, et alors, on dit que c'est dans la bondage du cœur que la bouche parle. Alors, elle m'a parlé trois quarts d'heure. J'ai fait juste qu'écouter. Et c'était bénédiction après bénédiction après bénédiction. Son mari a trouvé du travail. Il est quand même âgé de 61 ans, mais enfin, ça fait 2 ans qu'il travaille. Elle est pratiquement guérie. Ses enfants ont trouvé un beau travail. Ils se sont mariés dans le Seigneur. Et tout d'un coup, j'écoutais ce qu'elle disait. Je dis, mais c'est extraordinaire. On oublie de penser que quand on prie, mais Dieu écoute, et puis Dieu exauce tout le temps. C'est une question de patience, mais on est des impatients, n'est-ce pas? On voudrait que déjà, Dieu comme ça, pof, il agisse d'un coup de baguette magique. Dieu peut le faire, certes. Mais parfois, il faut être patient que dans l'épreuve et dans la prière, Dieu tôt ou tard va agir. Mais parfois, il n'agit pas parce que nous n'avons pas assez prié. Ou vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La raison pour laquelle on a un manque de succès dans notre croissance spirituelle, dans notre joie dans le Seigneur, dans le manque de sainteté, de pureté dans nos vies, c'est le manque de prière. Parce que prier, c'est passer du temps avec Dieu. C'est d'être en communion avec Dieu. S'il y a une belle compagnie à avoir sur cette terre, c'est bien Dieu, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a vraiment quelqu'un avec qui on peut passer du temps, c'est bien Dieu. Et quand on commence à croire qu'on le connaît, on a encore tout à apprendre. On a encore à apprendre et à approfondir combien il nous aime, n'est-ce pas? Combien il nous gracie dans nos vies. Combien il nous pardonne. Combien il nous relève. Combien il cherche à nous faire du bien. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Le diable nous donne une vision qu'on doit faire tous nos efforts pour essayer encore d'obtenir l'amour de Dieu. Mais la plus grande chose que Dieu désire, c'est de se révéler à ses enfants parce qu'il nous a sauvés. On est assis dans les lieux célestes, il veut nous remplir d'espérance, de penser qu'on est en route pour le ciel, qu'on marche vers le ciel, qu'on va passer l'éternité avec Dieu pour toujours, qui peut nous remplir de sa paix, de sa grâce dans tous les domaines de notre vie, peu importe les circonstances, parce qu'il est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La troisième raison, alors la première raison de l'importance pour laquelle il est important de prier, c'est que le diable existe. La deuxième, c'est qu'un manque de prière ne permet pas d'obtenir. Et on est en carence spirituelle parce qu'on ne prie pas assez. La troisième raison, elle nous vient de l'exemple des apôtres. Ils ont été établis par Dieu pour servir de modèle aux chrétiens. Et ils ont considéré la prière comme l'affaire la plus importante de leur vie. S'il y a bien des modèles à suivre, n'est-ce pas? Ce sont bien les apôtres, choisis par Dieu pour fonder son Église. On est d'accord? Tournez avec moi, Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6 et verset 2. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, des femmes, des veuves d'origine grecque qui étaient un peu délaissées. Et donc, il y avait besoin d'avoir une aide pratique, n'est-ce pas, pour créer une unité dans l'Église. Et donc, problème, solution, dirigé par Dieu. C'est merveilleux cela. L'Église devait vivre comme cela. Les problèmes, on va en avoir, mais Dieu a une solution. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je me souviens avoir lu le livre d'Oswald Smith, La Passion des âmes. Il disait que le diable dans nos vies essaie de nous envoyer toutes sortes d'activités à faire qui nous empêchent d'être un homme, une femme d'une seule chose. Et cette seule chose, c'est de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit et d'accomplir la volonté de Dieu. Ici, les apôtres, savaient que ce que Dieu voulait pour eux, c'était qu'il, en priorité, s'applique à quoi ? À la prière et au ministère de la parole. Veillons à ne pas compliquer nos vies, frères et sœurs. Parce que nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Si nous nous embarrassons des choses de cette terre, si nous nous alourdissons dans notre marche par toutes sortes de poids inutiles, nous ne sommes plus à notre place. Nous n'avons pas la priorité, les priorités qu'est la prière. Et Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. Dieu cherche des cœurs qui sont prêts à se consacrer dans le secret de leur chambre ou d'un lieu particulier pour passer du temps avec lui, parce que Dieu veut parler aux hommes et communiquer ses fardeaux. Si vous aimez Dieu, passez du temps avec lui. Priez. Avez-vous ce fardeau de prier? Avez-vous une vie de prière disciplinée? Ah, on est tous, n'est-ce pas, en faillite, peut-être. Mais est-ce que, ou en tout cas en faiblesse, ou en manquement quelque part, mais est-ce que nous nous perfectionnons dans la prière? Les grands réveils sont venus par la prière. Je me souviens avoir lu le livre de Charles Finet, n'est-ce pas? Quel homme puissant aux États-Unis qui a conduit toute une région au réveil, des milliers de gens qui sont convertis. Il racontait qu'il y avait dans une petite localité un groupe de gens de prière qui avaient prié toute la nuit avant de sa venue. Savez-vous quoi? Le lendemain au culte, quand il a prêché, c'était toute une nuit, dans samedi à dimanche, il y a eu un réveil et les gens se sont écroulés sous la puissance de Dieu, littéralement, tellement convaincus de péché pour se tourner vers Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. J'aimerais qu'on regarde juste un instant l'exemple de l'apôtre Paul. Alors, si vous voulez bien tourner à nouveau dans vos Bibles, on va commencer avec ce que nous dit Paul en Romains chapitre 1, versets 9 à 10. On va juste regarder l'exemple de l'apôtre Paul et sa vie de prière en une esquisse rapide, n'est-ce pas? Parce que ça mériterait toute une étude et plusieurs études même sur la vie de prière de l'apôtre Paul. Il dit ceci, l'apôtre Paul en Romains chapitre 1, on va commencer au verset 8, « Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Donc, l'apôtre Paul, il commence sa prière par l'action de grâce. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais quoi ? Sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Je fais sans cesse mention de vous. » C'est pour ça qu'en Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit « Priez pour tous les saints. » Et l'apôtre Paul avait à cœur, il n'était jamais allé à Rome. Il priait pour des gens qu'il n'avait jamais vus, jamais rencontrés. Mais le fardeau de la prière était tel qu'il priait continuellement pour les gens de Rome. Quand nous commençons à prier d'une façon, je dirais, miraculeuse, parce que de prier pour des gens qu'on n'a jamais vus ou rencontrés, c'est le miracle de la puissance du Saint-Esprit en nous. Et lorsque nous commençons à prier pour des gens dans différents pays, même l'Église persécutée, nous ne les voyons pas. Nous avons quelques nouvelles, mais quand l'Esprit de Dieu nous pousse à prier, c'est bon signe, n'est-ce pas, de dépasser son nombrilisme, et qu'on nous puissions avoir la vision comme Dieu l'a. Dieu a un grand cœur, est-ce que nous avons un grand cœur pour les autres dans la prière? Éphésiens chapitre 1, on continue la vie de prière de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 1 et versets 14 à 16. C'est merveilleux. Disons à partir du verset 15, si vous voulez. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse, tiens, Paul prie de façon constante et continuelle, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'apôtre Paul avait une façon de prier qui nous étonne. Il priait que Dieu ouvre les yeux des saints. Pourtant, un saint, c'est celui dont les écailles des yeux sont tombées pour naître de nouveau, voir Jésus-Christ, être spirituellement régénéré, sauvé, en route pour le ciel. Mais Paul dit, maintenant, vous avez encore besoin d'avoir des yeux illuminés pour connaître encore plus Jésus-Christ et savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Autrement dit, la révélation de Dieu dans nos cœurs n'est pas uniquement intellectuelle, elle est spirituelle. C'est un langage spirituel parce que c'est un acte de Dieu dans nos vies spirituelles. Mais comment Dieu nous éclaire et illumine les yeux de notre cœur? C'est par la prière et la lecture de la parole, mais c'est par la prière. Dieu nous éclaire par son esprit lorsque nous sommes en prière, en communion avec lui. Troisième passage que j'aimerais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, Colossiens, chapitre 1, verset 9. Alors dans chaque passage, on voit Paul qui rend grâce continuellement, qui ne cesse de prier. Donc Paul passe du temps dans la prière, parce que la prière est importante pour lui. Verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et le mot grec ici, l'idée de cesser, c'est le mot qui a donné le mot français agonie. On peut dire que Paul, quand il dit qu'il ne cesse de prier, le verbe grec ici est très intense à l'idée qu'il est en train d'agoniser. C'est fort comme terme. Est-ce que nous agonisons dans nos prières? Est-ce que nous avons des larmes, un cœur contrit de prier pour telle ou telle situation, pour le salut de telle ou telle personne? Est-ce que nous avons vraiment le fardeau de Dieu ou est-ce que nous jouons à la prière? Est-ce que vraiment le fardeau que nous avons vient de Dieu parce que c'est lié à la relation avec Dieu? Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire si l'Esprit de Dieu ne nous pousse pas à prier. Si l'Esprit de Dieu ne nous communique pas ce fardeau qui vient même du cœur de Dieu, nos prières sont vaines, elles ne dépassent pas le plafond ou la hauteur, n'est-ce pas, de notre bouche. Mais si ça vient de Dieu, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. C'est fort cela. Ce qui vient de Dieu qui nous inspire à prier. Dieu ne nous trompe pas, frères et sœurs. Il l'exauce tout le temps. Quoi que ce soit que nous demandions, dit la Bible, c'est une telle assurance, c'est une assurance divine parce que le Saint-Esprit est divin en nous, miraculeusement en nous, il agit et il nous communique ses fardeaux. Ce n'est pas nous en tant qu'êtres humains. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. C'est étonnant parfois que dans les réunions de prière, il n'y a pas de sujet, moi je suis bouleversé parce que regardez l'apôtre Paul, l'abondance de sujets qu'il avait en pensant aux autres. C'est incroyable. Et il ne cesse de prier Dieu pour vous. Hein, Paul priait pour les Romains, il priait pour les Éphésiens, il priait pour les Colossiens, et puis ici, il prie encore à un Thessalonicien, pour les Thessaloniciens, un chapitre 1, Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Et au verset 9. Souvent, Paul commence ses prières, quand il parle de sa vie de prière, par des actions de grâce. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Voyez-vous, le fardeau dans le cœur de Paul vient vraiment de Dieu. Nuit et jour, nous le prions, donc Paul priait de façon constante, Il ne cessait de prier et c'est le dénominateur commun de tous ceux qui ont accompli quelque chose sur cette terre et qui, dont on a su le ministère. Alors, Charles Studd, chacun nous avons nos champions de la foi, j'aime bien le dire et je le répète, Hudson Taylor, Donald Johnson, William Carey, qui, cordonnier, n'est-ce pas, était le fondateur des premières missions protestantes dans le monde. Il avait une map monde affichée alors qu'il réparait les chaussures, il priait pour tel et tel pays dans le monde jusqu'à ce que Dieu l'envoie en Inde. Et c'est lui qui a été le père de la mission protestante en Angleterre. Alors que nous étions dans la Révolution française, dans un bain de sang, un cordonnier priait et a commencé à voir la vision de Dieu s'accomplir par l'envoi de missionnaires dans le monde, parce que c'était un homme de prière. La vision vient de Dieu et le cœur vient de Dieu. Et je vais terminer ce matin, si vous me permettez, je vais ajouter un point, mais juste deux versets. La prière est importante, savez-vous pourquoi ? Parce qu'elle avait une place capitale dans la vie de Jésus-Christ sur terre. Et je vous invite à tourner avec moi dans deux passages. Marc, chapitre 1, on termine avec cela, d'accord ? Marc, chapitre 1 et verset 35. Où on va lire, pour comprendre le contexte, à partir du verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Quelle activité ! Guérison et délivrance de démons. Je crois que c'est toute une activité spirituelle qui ont dû amener notre Seigneur bien-aimé à une certaine fatigue. Et pourtant, il nous est écrit, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il pria. Donc après une activité intense, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la grâce matinée. On se fait piéger parfois. Hein ? Le paresseux tourne dans son lit comme une porte sur ses gonds. Je peux vous dire que ce verset moi, m'a souvent fait sauter du lit. Dieu nous appelle à prier, même parfois après les plus grandes victoires, parce qu'on est en danger justement. Après les plus grandes victoires ou bénédictions spirituelles, nous devons être à genoux à nouveau, parce qu'on est en danger. On est en danger. Il faut se laisser remplir à nouveau et rester humble et rester dans la grâce de Jésus-Christ. Après les plus grandes victoires, soyons humbles pour aller dans la chambre secrète. Parfois, confessons que nous n'avons plus envie de combattre, n'est-ce pas ? Le combat est dur, et parfois nous avons envie de baisser les bras, de nous reposer. On aimerait déjà que le Seigneur vienne nous chercher, l'enlèvement de l'Église, c'est la solution à tous nos problèmes, et la cessation de nos combats contre le diable et la chair, et notre chair, et nos péchés. Mais Dieu dit, combattez encore, dit Jésus-Christ, c'est un petit cantique que l'on chante. Et puis, Luc chapitre 6, d'accord ? Matthieu, Marc, Luc, et on termine avec ça. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 12. Il est écrit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, de passer toute une nuit en prière, poussé par Dieu. Littéralement, c'était pas moi, hein. On n'avait pas la force. J'ai passé toute une nuit dans la prière, une circonstance particulière que Dieu sait, et je me sentais vraiment. Et j'étais pas du tout fatigué, c'était bizarre. Hein, le lendemain, j'ai pu travailler, tout ça. Alors, quand ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas trop exercés à cela, reconnaissons-le. Hein, une fois, pas beaucoup. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, etc. Voyez-vous, Jésus. Il a prié à Marc, c'est un exemple que je donne. Il a prié à Marc après une grande activité, après une grande campagne d'évangélisation. Et là, il prie avant le choix des apôtres. Donc voyez-vous, on dirait qu'il faut prier sans cesse. après les grands événements, avant les grands choix de la vie, entrons dans notre chambre, fermons la porte et suivons l'exemple de l'apôtre Paul, suivons l'exemple de Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair, n'est-ce pas, mais contre les dominations, les esprits méchants dans l'île céleste. Et la prière est le seul moyen que Dieu nous ait donné pour obtenir toutes choses. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Notre Père céleste, nous nous humilions devant toi pour reconnaître nos négligences dans notre vie, dans la vie de prière que nous devrions avoir, tous et chacun. Si j'ai envie ce matin que nous puissions donner une réponse à ce message brièvement, là où nous sommes, j'aimerais que chacun de nous, c'est personnel, c'est entre vous et le Seigneur, fassiez un bilan bref de votre vie de prière. Peut-être quelqu'un ici ce matin a envie de revenir vers le Seigneur pour une vie de prière plus forte. Alors vous pouvez le dire au Seigneur tout seul. C'est Dieu qui portera le fruit en vous. C'est Dieu qui peut vous aider à revenir vers lui. Adressez-lui une prière et dites : Seigneur, aide-moi à prier. Jérémie un jour a dit à Dieu : fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons vers toi. Fais-nous revenir, Seigneur, à la vie de prière et nous prierons. Faites-lui cette prière. Ô notre Père céleste, nous sommes dans la paix, dans la joie de te connaître. Merci de nous exhorter ce matin à comprendre qu'il est important. Merci de votre attention. Le Seigneur vous bénisse abondamment, vous fasse du bien, vous accorde un sabbat béni, un jour de repos en Christ. Et je ne sais pas s'il y a un chant pour terminer ou non.